Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Il est presque 19h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité. Cet été semble être celui de tous les dangers. Le réchauffement climatique qui nous challenge, l'inflation qui atteint les 6%. L'ombre de la rentrée est déjà présente au moment où les Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts pour en débattre. Mes invités, William T, bonsoir.
Bonsoir.
Président du think tank Le Millénaire, Vincent Jeanbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Maire libre de L'Hérault, Sébastien Rome, bonsoir.
Bonsoir.
Député LFI de L'Hérault. Et puis au téléphone, trois autres invités. Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle. Violette Spilbou, députée Renaissance du Nord. Guyenne Brohan, présidente de la Fédération Nationale Famille Rurale. Merci à tous d'être avec moi ce soir. Le pouvoir d'achat, c'est 20 milliards d'euros pour mettre en place des mesures pour lutter contre l'inflation, pallier aux conséquences de la guerre en Ukraine. Est-ce que ce sera suffisant, William T?
Je pense que ça permet de répondre à un besoin qui est conjoncturel dans la mesure où on a un effet de rattrapage sur la question de l'inflation. Est-ce que ça permettra de répondre, je pense, à la crise existentielle qui est notamment a démarré lors de la question des gilets jaunes, en fait, qui était une manifestation et un soulèvement des classes moyennes vis-à-vis du système actuel dans la mesure où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les classes moyennes ont été paupérisées depuis une trentaine, quarantaine d'années liées au phénomène de désindustrialisation, etc. Est-ce que ça permettra de leur permettre de faire un nivellement par le haut? Je ne pense pas et je suis pas sûr que Emmanuel Macron avait la majorité politique pour pouvoir porter ce type de projet. Je pense que l'essentiel qu'il devait poser, notamment au, ce qu'il avait appelé à l'époque au Conseil national de la refondation, c'est de permettre de proposer une perspective en fait aux classes moyennes inférieures et aux classes populaires pour leur permettre de se niveler par le haut. Ça va jouer sur trois piliers. La question de travailler plus tout au long de la vie et de travailler plus sur le plan hebdomadaire. La question du taux d'emploi pour baisser et atteindre l'objectif du plein emploi, parce qu'en fait, ce qu'on montre notamment dans les études internationales, c'est que quand un pays arrive aux situations de plein emploi, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, vous avez les salaires qui augmentent mécaniquement de la mesure où vous avez une pénurie sur les métiers dits bas qualifiés. Et donc, du coup, face à cette pénurie, les entreprises proposent plus d'argent pour augmenter et de recruter plus de personnes. Et après, il y a un troisième sujet, c'est la question de l'investissement et la recherche, en fait, pour permettre un nivellement par le haut, dans la mesure où on proposerait des produits de meilleure qualité, et ce serait une sorte de révolution industrielle 2.0. C'est-à-dire qu'on permettrait d'avancer sur des nouvelles technologies, spécialiser la France dans la recherche, dans des secteurs ultra spécifiques, avec des métiers qui rapporteraient beaucoup plus, avec beaucoup plus de marge, pour élever et tirer toute la société par le haut, à la fois par l'éducation, par l'économie et la recherche.
Sébastien Rome, le salaire, c'est le nerf de la guerre. On y est là ?
Oui, effectivement, mais en tout cas, on n'y est pas du tout dans les propositions qui ont été faites. Mmh. L'inflation est de 6%, elle va être certainement
elle
autour de 7% à la fin de l'année. Mais la hausse des salaires, c'est 3%. En fait, ce qui veut dire que ça a été calculé par 60 millions de consommateurs. Ça va représenter un SMIC perdu à la fin de l'année par les Français. Voilà, donc on n'est pas sur des mesures de pouvoir d'achat, on est sur des mesures de perte de pouvoir d'achat. Bon, voilà, ça a été dit. En plus, cela a fait suite à de nombreuses années où on a de la perte de pouvoir d'achat. Le mouvement des Gilets jaunes l'a démontré. Eh bien, en fait, le gouvernement avait le choix, soit pouvoir soutenir les rentiers, soit pouvoir soutenir bien les salaires et les personnes qui travaillent. Eh bien, il a choisi les rentiers. Voilà quelle est la conclusion de cette cinquième politique qui a donné bien, du pouvoir d'achat aux plus riches.
Laurent Jacobelli, le gouvernement a soutenu les rentiers. Vous êtes d'accord avec Sébastien Rome?
Bon, en tout cas, le gouvernement a joué petit bras hein, au moment où il fallait refonder, je pense, la manière dont on voit le travail, dont on voit l'économie dans notre pays. Il a apporté des chèques essence, des chèques alimentation, ce qui d'ailleurs, dans la sixième puissance du monde, est un peu terrifiant. Je crois que ce gouvernement est passé à côté du problème. Il a cru que la perte de pouvoir d'achat et le mal-vivre d'un certain nombre de Français, économiquement en tout cas, étaient dus à des problèmes purement conjoncturels. Or, il y a des problèmes structurels. Il faut revaloriser les salaires, vos interlocuteurs l'ont dit, c'est pour ça que nous on a proposé à l'Assemblée nationale de proposer de revaloriser les salaires de 10% et que ces 10% soient exonérés de charges patronales par exemple, et des mesures pérennes comme la baisse de la TVA sur les énergies par exemple, parce qu'il y a quelque chose de paradoxal de voir l'État s'enrichir quand le prix de l'essence flambe et les Français s'appauvrir. Le gouvernement n'a pas compris qu'il fallait une réforme de grande ampleur. Il a joué, il a bricolé en donnant de-ci, de-là quelques gages. C'est largement pas suffisant et la rentrée va être malheureusement très dure pour les Français, surtout si le gouvernement s'entête avec sa réforme des retraites, sa réforme des indemnités chômage et sa réforme du RSA. Il va plonger les classes les plus défavorisées sur le bord de la route et les classes moyennes elles-mêmes vont se paupériser. Le gouvernement doit réagir et réagir vite.
Vincent Jeanbrun, est-ce que 10% d'augmentation de salaire, c'est finançable? Est-ce que c'est réalisable, d'après vous?
Ça ne me paraît pas réalisable en l'état. Maintenant, on a des mesures qui étaient nécessaires, plus ou moins fortes. Elles ont été votées et elles feront du bien à un certain nombre de Français. Mais c'est une pommade dont l'effet va être très court, parce que la crise, elle est encore devant nous. Le pire, à mon sens, est devant nous, et il va falloir être capable, comme vous le dites, de trouver des solutions pérennes et finançables. Parce que quand le député RN nous dit il y a l'État d'un côté et les Français de l'autre, non, tout ce qui sort de la poche de l'État, c'est d'abord de la poche des Français que c'est sorti. Donc c'est quand même ça l'enjeu. Et il faut financer. Financer, c'est donc être raisonnable, et surtout remettre les gens au travail. Ça a été dit par William Tay tout à l'heure, il va falloir que le vrai pouvoir d'achat, on aille le chercher là où il est. Pas par des chèques alimentaires, mais par une capacité à remettre la France au travail. Et ça, il y a urgence, et là-dessus, effectivement, on est encore un peu sur notre faim.
Laurent Jacobelli, vous n'avez pas beaucoup de temps avec nous ce soir. Une dernière question. On vient d'entendre Vincent Jeanbrun ici. Ah, Laurent Jacobelli n'est déjà plus avec nous. Bon, eh bien, écoutez, on va le remercier. On vient d'entendre Vincent Jeanbrun à l'instant qui nous expliquait qu'il faut remettre la France au travail. Quand on voit le rachat des RTT, vous savez, les RTT, quand on ne les prend pas, le gouvernement a dit, voilà, vous avez la possibilité de les racheter. Mais est-ce que ça... c'est pas contre-productif. Est-ce qu'on ne dit pas aux Français, vous voulez avoir plus d'argent ? Bon, ok, mais à ce moment-là, on ne se repose pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien Homme ?
Effectivement, on est vraiment sur une mesure qui est à l'antipode de ce qu'il faudrait faire. Revaloriser les salaires, ça serait le meilleur moyen de répondre à la crise actuelle, notamment à celle du logement.
Mais par contre, vous financez comment cette revalorisation des salaires ?
Parce qu'en l'état, apparemment, mais en tout cas, comment fait l'Allemagne ? 23% d'augmentation du SMIC sur un an, alors que l'inflation chez eux est de 12%. Alors
que le député travaille beaucoup plus que nous.
Alors que l'inflation chez eux est de 12%. Le Royaume-Uni a augmenté les salaires. L'Espagne a augmenté les salaires. Comment le font-ils aussi ? Eh bien, ils le compensent par le fait de taxer notamment les surprofits. Même l'ONU l'a déclaré. Il n'est pas logique. Ce n'est pas seulement l'argent de l'État, des Français qui tournent tout seul. Il y a aussi quand même des grands groupes qui font de méga profits et ils font ces méga profits. Mais Total n'a pas créé de nouvelles valeurs, Total profite de la crise, profite de l'inflation pour augmenter ses marges. Eh bien, ces marges-là, elles pourraient être réinjectées dans le portefeuille des Français.
Je vais vous faire le calcul. On vous a posé la question sur combien coûterait. Vous avez proposé une augmentation des salaires de 10%, c'est ça, à peu près.
C'était Laurent Jacobelli, 10%, voilà. Mais vous étiez d'accord, Sébastien.
Pour 1 500 euros. Oui.
Vous êtes encore plus. Si c'est une augmentation des salaires de 10%, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an.
On les trouve où, William T.
Justement, je vais lui poser la question, parce que sur la taxation des super profits, Total, si vous prenez tout, c'est-à-dire que vous récupérez 10 milliards d'euros par an, au maximum, c'est-à-dire qu'il vous manque 70 milliards. Comment on fait?
Comme l'Angleterre. Pourtant, ce n'est pas un pays extrêmement gauchiste.
L'Angleterre
a augmenté ses salaires. L'Angleterre a augmenté ses salaires et a créé de l'emploi. On remet de l'emploi.
L'Angleterre, contrairement à ce que vous dites, est plutôt ce que vous qualifierez d'un pays ultra méga libéral, avec des personnes qui sont en plein emploi sur des situations de mini-job.
Mais c'est pas la même situation. C'est un pays réaliste d'un point de vue économique. C'est un pays réaliste d'un point de vue économique. C'est-à-dire,
vous savez, messieurs, les parlementaires sont fans de l'Angleterre.
Mais on va trancher, on va demander concrètement à Guylaine Brand ce qu'elle en pense. Elle est présidente de la Fédération nationale de familles rurales. Elle le vit, le petit salaire au quotidien, elle a l'habitude, elle gère des gens comme ça. Guylaine Brand.
Et moi, ce que j'aimerais dire aussi, que c'est une réelle difficulté pour les salariés du milieu rural. Absolument. De se déplacer. 40% de plus de dépenses de carburant dans le milieu rural. Et ça, faut vraiment en tenir compte. Et il faut vraiment que le gouvernement ait des aides ciblées pour aider les personnes qui se déplacent dans le milieu rural.
Alors, Guylaine, justement, il y a Violette Spielboot qui est avec nous. Elle est députée Renaissance du Nord. Violette, est-ce que cette mesure...
Oui, bonjour.
Bonsoir. Est-ce que cette mesure des 30 centimes de ristourne à la pompe, c'est suffisant? Parce que ce sera en septembre, en octobre. Après, c'est fini, il y a 10%. Donc, quand on a des personnes comme ça, notamment chez Famille Rurale, vous savez, les aidants, on fait comment pour les aider, ces aidants, qui ne peuvent pas se déplacer ?
Eh bien, effectivement, c'est vraiment, en tout cas, les travailleurs, ceux qui utilisent la voiture, qui subissent le plus l'augmentation du prix de l'essence. Donc, cette ristourne de 30% sur laquelle on s'est mis d'accord avec le compromis à l'Assemblée nationale de 30 centimes, elle va être complétée, effectivement, par Total 20 centimes. Elle est complétée aussi par d'autres groupes comme Leclerc ou d'autres marques qui font des efforts pendant des périodes données, mois d'août, mois de septembre. On espère que ça va continuer. continuer. Pour les entreprises qui font du profit, comme le disait monsieur juste avant, nous continuons de maintenir une pression pour que ces gains soient redistribués par une baisse de prix aux consommateurs. C'est surtout là-dessus que nous serons vraiment très vigilants. Et puis, pour ces travailleurs qui sont parfois avec des bas salaires, des temps partiels, nous avons aussi la prime d'activité. La prime d'activité, elle est augmentée grâce à cette loi pouvoir d'achat de 4%. Et puis, on a la prime de rentrée qui a été le fruit d'un accord entre les sénateurs et les députés pour que chaque famille puisse avoir 100 € qui seront versés directement dès le 1er septembre avec 50 € en plus.
Vincent Gendrin.
C'était important de voter ces textes pour qu'on ait tout de suite là, une réponse court terme, mais vous voyez bien, et c'était l'interpellation que nous a fait la personne juste avant, que ça s'applique de manière générale partout sur le territoire sans distinction. Et c'est pas la même chose quand on vit au cœur d'un arrondissement parisien où on a le métro et les transports en commun, et quand on est dans des territoires ruraux où la voiture est le seul mode de transport. Et c'est vrai que là-dessus, la loi a été prise en urgence, donc je cherche même pas à la critiquer, mais on espère qu'il y aura un troisième volet pouvoir d'achat qui sera capable de faire un peu plus de sur-mesure et notamment de prendre en considération des situations aussi difficiles que celle-ci.
Est-ce qu'on était sur le « et en même temps » parce que « et en même temps », on doit gérer les conséquences de cette guerre en Ukraine, on a un gros problème d'inflation en France. Puis en parallèle, on n'a peut-être pas non plus les moyens de tout financer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Faut établir des priorités.
Est-ce que ça, c'était une priorité ?
Moi, je pense en fait que si par cas, le prix de l'essence augmente trop vite et de façon trop importante, on assistera à ce qu'on appelle le troisième choc pétrolier. À l'époque, le second choc pétrolier, les deux chocs pétroliers, avaient conduit la France de passer des 30 glorieuses aux 40 piteuses, donc ce qu'on a assez exactement, c'est-à-dire 40 ans de stagnation de croissance économique. Donc effectivement, dépenser 10, 20, 30 milliards d'euros pour éviter une récession sur les 10, 20 prochaines années, je pense que c'est rentable, et quitte même à maintenir un niveau de prix de carburant, un niveau stable, inférieur à 1,80 €. Pourquoi est-ce que faire 1,80 €? C'est en fait tout le surplus des 1,80 €, ce serait compensé par une baisse de taxes progressive.
Sébastien, vous êtes d'accord ou est-ce qu'il faut baisser tout de suite toutes les taxes ?
D'abord, effectivement, il faut le rappeler, cette inflation, elle pèse pas de la même manière partout sur le territoire. Elle pèse bien d'abord sur les agriculteurs, elle pose d'abord sur les Français qui vivent dans la ruralité. Moi, c'est un territoire d'où je viens et je le vois très clairement. Et j'ai des électeurs qui m'ont interpellé et qui m'ont dit eh bien, je renonce à travailler parce que j'habite à 50 km et donc, du coup, aller-retour 100 km par jour, ce n'est plus possible. Donc, le gouvernement est toujours en train de courir derrière l'inflation en ce moment et donc il ne répond pas réellement à sa juste hauteur.
Mais le blocage des prix
était possible. Ça fait deux fois qu'on fait une baisse. On va le faire une troisième fois, une quatrième fois, à chaque crise ? Non, on a un blocage des prix qui est possible. Ça peut être compensé par Total. Total fait des surprofits. Eh bien voilà, il peut financer les surprofits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prime Macron telle qu'elle est proposée, l'année dernière, c'est 4 millions de Français qui n'ont touché que 500 €. On a relevé le plafond on a triplé le plafond. Mais la réalité, c'est que c'est le sol qui est en train de s'effondrer. C'est les salaires depuis bien trop longtemps qui n'augmentent pas, qui sont tassés en France.
Guylaine Brohan, vous êtes toujours avec nous. En réalité, oui. Ce que vous voulez nous dire, c'est que au moment où l'hôpital va mal, où il y a de moins en moins d'aidants, est-ce que les gens qui travaillent à Famille Rurale, qui travaillent pour vous, vous êtes une association, n'est-ce pas ? Est-ce que ces gens-là vont presque se dire, en fait, ça ne vaut plus le coup de travailler ?
Ça coûte cher, donc on réfléchit à deux fois. Mais ce qui pourrait se faire actuellement par rapport, je ne sais pas, le gouvernement, il faudrait vraiment qu'il aille dans un plan de mobilité. Pourquoi ne pas développer encore plus les moyens de transport dans le milieu rural ? Parce que c'est vrai, on dit que ce n'est pas rentable, donc on supprime des lignes de chemin de fer. Voilà.
Vous parlez des TER là notamment, hein, c'est
les
ça
Les TER, c'est ça. Donc il faut vraiment permettre, et je pense que ça serait un vrai gain du pouvoir d'achat des personnes du milieu rural, de pouvoir se déplacer en moyen de transport collectif.
On va vous le demander, Violette Spilbou. Est-ce que vous seriez pour, justement, le fait de repenser, de recréer ces transports locaux, régionaux, redonner du pouvoir à la région et donc redonner du pouvoir d'achat aux gens qui habitent dans la région ?
Violette. Vous citez le sujet... Oui, vous m'entendez ?
Allez-y,
oui,
on vous entend.
Oui, effectivement, d'abord, le sujet des aidants en milieu rural est un sujet moi, auquel je suis très sensible, même si je ne vis pas en milieu rural. Je connais beaucoup d'aidants, de personnes qui travaillent à domicile et qui sont vraiment dans la difficulté à cause de sujet de transport. Donc, il y a une première chose dont on n'a pas parlé juste avant, c'est l'aide que l'employeur peut apporter avec le forfait carburant défiscalisé à chacun de ses employés qui était passé de 200 à 400 euros, là, avec la loi pouvoir d'achat, donc qui a été augmentée. Il y a une deuxième chose, c'est le forfait mobilité durable pour ceux qui ont des moyens de transport et qui vont pouvoir avoir une aide sur les transports en commun qui va être augmentée. Et puis la troisième chose, vous l'évoquez, c'est l'aménagement du territoire. Ça, c'est un vrai partenariat entre les présidents de région et l'État. C'est bien les régions qui ont la compétence des TER, du nombre d'arrêts, de la régularité, de la capacité des trains qui doit augmenter dans beaucoup de régions. Moi, dans les Hauts-de-France, on le sait, on a un président de région qui a plutôt tendance à faire des économies sur des zones où on aurait besoin d'avoir beaucoup plus de TER en fréquence. Et il y a ce travail à faire entre l'État, la SNCF et la région pour qu'il y ait plus de fréquences et des trains à l'heure pour des travailleurs qui n'ont pas le choix. Donc tout ça, c'est une vraie politique globale d'aménagement du territoire. Et puis ce sujet de la mobilité et des personnes aidantes, il est particulièrement sensible aussi parce qu'elles sont souvent à temps partiel. Et là-dessus, il faut qu'on réussisse à augmenter leur nombre d'heures pour qu'elles aient un salaire beaucoup plus décent.
Vincent Jeanbrun, et je vous donne la parole tout de suite, William T. Vincent Jeanbrun, est-ce qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue là, on se passe le bébé? Non, c'est la région. Non, c'est l'État.
Moi, je suis conseiller régional de l'Île-de-France. Je suis effectivement très surpris. Je pense que Madame la députée ignore peut-être, mais il y a ce qu'on appelle un contrat entre l'État et la région. Et certes, c'est la région qui a la compétence pour avoir le leadership sur le projet, mais l'État finance et cofinance. Et on a vu ces dernières années, je ne sais pas précisément de quoi il en retourne dans les Hauts-de-France, mais à mon avis, c'est tout à fait similaire à ce qu'il y a en Île-de-France, c'est-à-dire que l'État n'est pas au rendez-vous. C'est vrai sur les transports, c'est vrai sur énormément d'autres sujets. L'État n'a fait que se désengager, laissant aux collectivités, que ce soit les mairies, moi je suis maire, ou les régions, ou les départements. Et il y a un véritable enjeu, d'ailleurs, dans cette loi pouvoir d'achat. On a un peu oublié les collectivités qui sont souvent au premier rang, parce que c'est dans les villes qu'on a les CCAS, les centres communaux d'action sociale, où on va donner des bons alimentaires. Les départements sont en charge des RSA. Bref, les collectivités ont été totalement oubliées et c'est finalement souvent elles qui viennent aider les plus démunis dans notre pays.
La droite appelait de ses voeux, notamment les Républicains, de repenser aux collectivités. Absolument. William T., vous vouliez ajouter quelque chose?
Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux propos tenus par Madame la députée de Renaissance. Les régions n'auront pas la capacité à faire ce qu'a demandé Madame la Présidente de la Fédération des soignantes. C'est impossible. C'est impossible. En fait, il faut repenser l'aménagement du territoire. C'est ce qu'aurait dû faire François Bayrou quand il a été nommé commissaire général au plan. En fait, il faut faire un nouvel aménagement du territoire et ça supposera non pas un investissement par rapport au budget de la région, enfin, vous allez me le rappeler, mais ça doit être 2-3 milliards, ça ne suffira absolument pas.
Pour vous, c'est une refonte profonde.
Ah non, mais pour moi, c'est une refonte profonde. Et en fait, si le gouvernement avait annoncé, notamment au début, ils ont quand même mis 3 ministres de la planification, de la transition énergétique, pourquoi est-ce que ces ministres-là n'imaginent pas, avec le commissaire au plan, une nouvelle architecture territoriale? En fait, on sait que la société française est organisée autour de métropoles. Et donc, les métropoles concentrent les richesses. Et pour connecter les métropoles aux territoires ruraux, il faut créer une architecture globale de transport. Et est-ce que les régions auront les capacités de financer dans la mesure où elles sont rêver chaque année financièrement? C'est impossible. Il n'y a que l'État qui a la capacité d'emprunt financier de façon assez importante et d'imaginer un effort collectif de façon globale. C'est ce qu'avait fait le général de Gaulle au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron avait promis en juillet 2020 avec la crise sanitaire, et nous assistons aujourd'hui au retour des jours heureux. Et aujourd'hui, l'effort n'est pas au rendez-vous dans la mesure où il n'a pas imaginé le monde de demain. Mais quand on imagine le monde de demain, connecter les métropoles aux banlieues et aux territoires ruraux, ça suppose un effort de l'État et c'est un effort qui doit être national.
Sébastien Rome.
Quand on regarde la carte quand on regarde la carte du réseau ferré il y a un siècle, on voit qu'on a perdu beaucoup de temps, effectivement. Mais cette planification que l'on appelle de nos voeux, qui donnera du travail, parce qu'on a les savoir-faire en France, effectivement, on peut reconnecter l'ensemble du pays et tirer l'ensemble de l'économie vers le haut, parce que les gains de productivité que nous ferons plus tard sur l'économie de l'écologie, sur l'ensemble, sur l'agriculture, ça va partir des territoires ruraux. Mais ça ne répond pas à l'urgence actuelle. Et là, ce sont les salaires, et notamment sur les aidants, très clairement, les salaires jouent sur le fait qu'ils peuvent renoncer à aller voir et aller aider nos aînés.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle, Violette Spielbout, député Renaissance de Lille, Guyenne Brohan, président de la Fédération Nationale Famille Rurale, Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault, William T., président du Think Tank et le millénaire Vincent Jeanbrun, maire libre de Les Roses.